Le journal est présenté par Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Benoît, bonjour à tous. Le bilan ne cesse de s'alourdir après le séisme qui a frappé hier l'Italie. 247 morts, 3 villages partiellement détruits, mais de l'espoir encore de retrouver des survivants. Reportage sur place de Sébastien Baer. Des centaines de rebelles syriens, soutenus par les chars et l'aviation turque, ont repris Jarablus, ville syrienne à la frontière de la Turquie. Correspondance dans ce journal d'Alexandre Billette. Et puis il laisse derrière lui des romans, des essais, de la poésie. Michel Butor, l'une des grandes figures du nouveau roman, est mort hier à l'âge de 89 ans. Commençons par ce jour historique pour la Colombie. Le gouvernement et la guérilla des FARC ont scellé dans la nuit un accord de paix pour mettre un terme définitif à un conflit armé de 52 ans. Conflit qui a fait des centaines de milliers de victimes. 4 ans de négociations pour aboutir à cet accord signé dans la nuit à Cuba. En Italie, les sauveteurs sont toujours à pied d'œuvre pour tenter de dégager des décombres, maisons rasées, routes déformées, d'éventuels survivants du séisme survenu hier matin. Séisme d'une magnitude de 6,2 dont l'épicentre a été situé à une centaine de kilomètres à l'est de Rome. Déjà 247 morts. Le village d'Amatrice, dans un secteur montagneux, fait partie des plus touchés. Sébastien Baer a suivi sur place les opérations de secours, une course contre la montre.
Les sauveteurs le savent, il faut faire vite car chaque heure compte. Hier, ils ont sorti des décombres, une grand-mère et ses 2 petits-enfants. Et d'autres survivants pourraient encore être trouvés, espère Stefano, qui fouille les ruines des maisons avec son chien.
On essaye d'être aussi efficace que possible. On sait qu'on peut retrouver des rescapés pendant 3 jours. Vous savez, des chiens ont déjà découvert des survivants ces dernières heures à l'intérieur des maisons.
La tâche des secouristes est particulièrement dangereuse. À tout moment, les maisons fragilisées peuvent s'écrouler en cas de réplique, avertit Giovanni Tarquini de la Croix-Rouge italienne.
Les répliques sont imprévisibles, donc on essaie de passer au milieu des routes et de ne pas longer les immeubles au cas où ils s'écroulent. Il y a quelques heures, on travaillait dans le bâtiment que vous voyez là-bas. On était en train de sortir quelqu'un et il y a eu des secousses. Il a fallu tout arrêter.
Dans la soirée, les bonnes volontés ont apporté de l'eau, de la nourriture et des vêtements aux sinistrés, comme Marco, qui vit dans un village voisin.
Il faut qu'on s'entraide, c'est très important. C'est terrible parce qu'on vient ici presque tous les jours et on ne retrouve plus rien de ce qu'on connaissait.
Même l'hôpital local n'a pas résisté. Pour soigner les blessés, une infirmerie de campagne a dû être installée sur le parking, sous une tente.
Sébastien Baer, envoyé spécial de France Culture dans le village italien d'Amatrice. La Syrie, à présent, où les djihadistes du groupe État islamique ont été mis en déroute dans la ville de Jarablus à la frontière turque. C'est justement la Turquie qui a lancé l'opération Bouclier de l'Euphrate sur le sol syrien avec le soutien de Washington. Le vice-président américain Joe Biden était d'ailleurs de passage à Ankara hier. La correspondance d'Alexandre Billette à Istanbul pour France Culture.
La ville de Jarablus est sous contrôle des forces rebelles soutenues par Ankara. Le drapeau turc et le drapeau des rebelles syriens flottent sur la ville. Une ville qui a été totalement désertée par les djihadistes, c'est ce qui a été confirmé par Recep Tayyip Erdogan. Les troupes turques qui sont entrées dans la ville sur 3 fronts et qui n'ont rencontré que très peu de résistance. D'ailleurs, l'armée turque ne déplore aucune victime lors de cette opération. On annonce la mort d'une 50aine de djihadistes à Jarablus et dans les villages avoisinants. Des villages qui ont été aussi pris à l'État islamique. On parle d'au moins 4 villages qui sont désormais sous le contrôle des forces syriennes rebelles alliées à Ankara. Les États-Unis ont confirmé avoir soutenu par les airs, par l'aviation, l'opération turque. En visite à Ankara, Joe Biden a déclaré avoir mis en garde les milices kurdes du pays grec de ne pas franchir l'Euphrate vers l'ouest, de ne pas dépasser ce fleuve qui est une ligne rouge en quelque sorte pour Ankara. Une demande qui n'a pas été respectée par le pays grec et Joe Biden a été très clair. Nous allons retirer notre soutien si ces troupes ne retraitent pas vers l'est. Un message à l'adresse des forces kurdes qui a été certainement très bien accueilli par le pouvoir turc.
Le Sénat brésilien donne aujourd'hui le coup d'envoi au dernier acte du jugement en destitution de la présidente Dilma Rousseff. Sous le commandement du président de la Cour suprême, la séance plénière des 80 sénateurs décidera si l'ancienne guérillera de 68 ans doit ou non quitter la présidence pour avoir maquillé les comptes publics et signé des décrets engageant des dépenses sans l'accord du Parlement.
7h04 sur France Culture, le journal de Catherine Dutu. C'était l'un des pères du nouveau roman aux côtés d'auteurs comme Alain Robbe-Grillet, Nathalie Sarotte ou encore Claude Simon. Michel Butor est mort hier à l'âge de 89 ans et nous lui rendrons hommage tout à l'heure à partir de 8h35 dans cette émission.
Michel Butor, prix Renaudot en 1957 pour La Modification, son roman le plus célèbre. L'écrivain qui n'avait jamais cessé d'écrire et de publier s'est éteint hier à l'hôpital de Contamine-sur-Arve en Haute-Savoie. Il y a 16 ans, Michel Butor avait évoqué son travail d'écrivain sur France Culture dans l'émission À voix nue, au micro de Frédéric Yves Janet. Il expliquait alors pourquoi il avait arrêté d'écrire des romans en 1960 afin de se consacrer à d'autres formes de littérature.
J'ai commencé par écrire des poèmes, comme beaucoup d'étudiants. Et puis, j'étais étudiant de philosophie, donc il était normal pour moi d'écrire des essais. Et j'ai commencé à écrire de la critique littéraire. Et puis, lorsque je me suis mis à écrire des romans, j'ai essayé de me concentrer complètement là-dessus. Parce que je m'imaginais que le roman était un genre très, très englobant. J'avais des exemples sous mes yeux de grands écrivains qui avaient essayé de tout faire passer dans le roman, que ce soit Balzac ou Proust ou bien d'autres. Donc, j'essayais de faire comme eux. Et puis, au bout d'un certain temps, ça a explosé, si vous voulez. D'abord, mes romans ont surpris les critiques. Et donc, on m'a posé de plus en plus de questions. Et ça s'est passé assez rapidement. Les critiques littéraires, ne sachant plus comment parler de mes livres, ont préféré me demander d'en parler moi-même. Et je dois dire que j'aimais autant ça.
Michel Butor qui nous a quitté hier à l'âge de 89 ans. Rendez-vous sur franceculture.fr pour retrouver d'autres archives sur l'écrivain. Les chiffres du chômage de Pôle emploi pour juillet en demi-teinte dans la catégorie A, celle des chômeurs à la recherche d'un emploi à temps plein, baisse de 0,5% sur un mois, mais augmentation dans toutes les autres catégories de chômeurs, ceux qui recherchent un travail à temps partiel, qui sont en formation ou encore en contrat aidé. Sur un an, le nombre de chômeurs est en hausse de 1,6%. On en sait un peu plus sur l'ampleur du scandale sanitaire de l'anti-épileptique Dépakine. Entre 2007 et 2014, alors que les risques sur le fœtus étaient déjà connus, plus de 14 300 femmes enceintes ont pris ce médicament, prescrit donc pour traiter l'épilepsie et les troubles bipolaires. Seuls 61% des grossesses ont abouti à la naissance d'un enfant vivant. C'est la conclusion d'une étude publiée par l'Agence du médicament et l'assurance maladie hier. Le gouvernement annonce la création d'un fonds d'indemnisation pour les familles et les experts jugent indispensable d'étendre le suivi de l'exposition aux autres traitements de l'épilepsie. C'est ce que demandait d'ailleurs Marine Martin, présidente de l'APESAC, une association qui rassemble 1300 familles de victimes.
Tous les antiépileptiques sont tératogènes. Donc en fait, il est là le problème, et je pense le cœur du problème pour les neurologues français, c'est qu'il n'y a pas de réelle alternative. Mais c'est qu'on ne dit pas la vérité aux patientes. C'est vrai que c'est triste de ne pas pouvoir avoir d'enfant, mais est-ce qu'on a véritablement envie de mettre au monde un enfant handicapé? C'est le libre arbitre de la femme, du couple, qui n'a pas été proposé à la patiente, et c'est ça qu'on remet en cause. Certaines études suggèrent déjà qu'une autre molécule, le lamictal, donnerait des taux d'autisme extrêmement importants. Donc il est important que ce sujet soit pris à bras-le-corps pour éviter un autre scandale sanitaire que celui de la Dépakine avec un autre antiépileptique. Donc à l'avenir, il est important que l'agence de santé affiche clairement et demande aux industriels d'afficher la toxicité du produit. Et moi, je suis encore surprise de voir des industriels qui publient eux-mêmes les taux de tératogénité. Je prends l'exemple du lamictal. Beaucoup d'études ont été publiées par le laboratoire GSK. Comment accorder une crédibilité à ces études ? Moi, je ne les crois pas quand ils disent qu'il n'y a pas de risque tératogène dangereux pour le fœtus. Donc, il faut, j'avertis les consommatrices épileptiques d'être extrêmement vigilantes sur les autres produits parce que là encore, l'information n'est pas bonne.
Marine Martin, présidente de l'APESAC, une association de familles victimes de la Dépakine. Elle était interrogée par Aurélie Kiefer. Le temps de ce jeudi 25 juillet, toujours aussi chaud avec 37 départements en vigilance orange pour la canicule. Et puis cet après-midi, il fera entre 24 et 38 degrés dans tout le pays, Benoît Bouscarel.
Merci, c'était Catherine Dutu qu'on retrouve d'ici une vingtaine de minutes sur France Culture.